Nicole Savy qui nous rejoint est connue bien sûr de tous les Ugoliens comme une grande spécialiste des Misérables sur lesquels ont porté ses premières recherches. Elle a édité très remarquablement ce roman en l'annotant de façon extrêmement riche. Elle est aussi l'auteur d'un Victor Hugo voyageur de l'Europe qui est resté un classique des recherches sur les rapports si importants et aujourd'hui si actuels de Hugo avec la notion même d'Europe et son expérience de voyageur. Et puis elle a étudié certaines questions qui touchent aux Misérables comme le personnage de Cosette ou bien Les Misérables comme roman de geste dans un colloque de Cerisy qui fut en 1984 un des moments importants de la commémoration et qui, dont les actes ont été réunis sous le titre Hugo le Fabuleux sous la direction de Jacques Sébachère. Nicole Savy donc nous présente sa communication sur Les Misérables, roman moderne, roman énigmatique.
Merci Arnaud. Alors je ne vais pas me lancer dans le bref laps de temps qui m'est imparti dans une tentative de définition de la modernité, sujet fort complexe et qui a suscité une importante et abondante bibliographie à laquelle, par exemple, Henri Méchonic, ici présent, a contribué. Je dirais simplement, pour me débarrasser de la question, que la modernité met en jeu le temps, l'histoire et le sujet, sujet qui est, dans le cas du roman de Victor Hugo, l'auteur et le narrateur à la fois. À la fois et pas seulement, j'y reviendrai. Affirmer qu'un roman du XIXe siècle est moderne pour nous, c'est postuler que c'est encore de notre vie et de notre avenir qu'il nous parle. Ce que je voudrais tenter de montrer, c'est que Les Misérables ne sont pas ou pas seulement la grande fresque humanitaire et mélodramatique à laquelle les réduit une lecture bien pensante et finalement méprisante. C'est un texte écrit pour produire une infinité de lectures possibles, à des niveaux très différents, polysémique comme toute grande œuvre littéraire, et polygénérique plus que la plupart, englobant une véritable diversité de genres romanesques. Mais surtout, et c'est là mon propos aujourd'hui, résistant à toute clôture du sens, à tout positivisme progressiste, comme à tout idéalisme révolutionnaire, débordant le XIXe siècle, dont il est pourtant le produit et dont il écrit l'histoire, pour parler un langage qui est le nôtre et poser des questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu. Je poserai moi-même simplement trois questions successives pour esquisser cette lecture. Celle de l'historicité d'un roman de critique sociale, premièrement. Deuxièmement, celle du sens du roman, qui se trouve à la fois mis en crise, en contradiction avec lui-même, chiffré, voire effacé. Et enfin, celle de l'inconscient, qui tient une place importante dans un texte pourtant bien antérieur, à la connaissance freudienne et à sa diffusion. Alors, commençons par la première question, celle de l'historicité d'un roman de critique sociale, ce qu'on pourrait appeler autrement, pour emprunter une expression à un autre auteur, Baudelaire, la vie moderne. Donc, rappelons que ce roman, qui a été commencé en 1845, avant la révolution de 1848, fut publié en 1862, c'est-à-dire qu'il est très exactement contemporain à la fois de l'élaboration de l'idée baudelairienne de la modernité et d'une réalité historique de la concentration à Paris d'une nombreuse population manufacturière et prolétaire. Dans une France qui est encore très majoritairement paysanne, le plein essor économique du Second Empire dans les années 1860 entraîne, ce sont des aspects qui sont bien connus, un développement inouï de la misère urbaine, de ces classes laborieuses que Louis Chevalier, dans un ouvrage célèbre, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe siècle, a analysé comme classes dangereuses. Donc. Ces zones d'ombre sociale, avec leurs souffrances, leurs châtiments et leur langage, sont le sujet des Misérables. Victor Hugo décrit une société riche qui sécrète comme naturellement un envers, qui est un enfer, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'exclusion. Ces exclus vont des couches les plus pauvres du peuple, aux vagabonds, aux enfants abandonnés, aux prostituées et aux voleurs. Trappe sans fond dans laquelle les plus faibles et surtout les femmes sont toujours en danger de tomber et dont il est presque impossible de sortir. Ce que Hugo appelle aussi la mine et les mineurs. Des personnages comme Fantine, Éponine et Gavroche en meurent. Jean Valjean côtoie sans cesse l'abîme sans y rouler et réussit par un effort surhumain le sauvetage de Cosette. La police, la prison, le bagne, quand ce n'est pas la mort, sont mitoyens des bas-fonds de cet égout social que le romancier éclaire, à vrai dire, d'un jour lugubre. Or, dans le roman, cette vision du mal social ne s'accompagne pas de bons sentiments. Le lecteur peut éprouver de la pitié, de l'émotion, mais aucune solution n'est proposée, aucun espoir n'est offert. À la différence d'Eugène Sue, décrivant la misère dans les mystères de Paris, Hugo ne fait pas suivre son diagnostic de remède. Les individus sont impuissants. La charité de l'évêque Myriel, qui se prive de tout pour ses pauvres, n'est qu'un soulagement temporaire lié à un homme d'exception. De même, M. Madeleine, maire de Montreuil-sur-Mer, réussit un éclatant développement industriel et économique, en fait bénéficier sa municipalité et ses administrés, pratique la justice sociale la plus intègre, aide et soutient généreusement les miséreux, mais du jour où il se fait connaître comme Jean Valjean et se remet entre les mains de la justice, son œuvre s'écroule et la ville retourne à son état végétatif antérieur. On pourrait en conclure que la philanthropie et l'action individuelle sont insuffisantes et que c'est du côté de la politique qu'il faut chercher des solutions. On n'en trouvera pas plus. Napoléon et l'Empire s'effondrent à Waterloo. Hugo nous raconte la tragédie que fut cette défaite. Oui, mais en même temps, ce fut la date de la naissance de la liberté, de l'espoir républicain en Europe. C'est ce que nous dit l'auteur. Et, en fait, de liberté, le siècle commence par le temps des restaurations, c'est-à-dire par les nostalgies d'anciens régimes. Le souvenir de la Révolution française est bien là, comme un germe d'espoir, mais, pour ce qu'on en voit dans le roman, le combat révolutionnaire est désespéré et les barricades se terminent dans le sang. Reste, à travers les convulsions de la France au XIXe siècle, une constante qui est sociale et qui est la misère. Question insoluble dont la solution ne peut qu'être remise à plus tard. Relisons la préface des Misérables qui se prononce très précisément sur les fonctions du roman. Dans les temps qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que, dans de certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance ou misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Alors bien sûr, on ne dirait pas les choses dans ces termes-là aujourd'hui, avec cette rhétorique-là aujourd'hui. Mais même si le droit, il y a une des questions qui intéresse le plus Victor Hugo, même si le droit a progressé, et surtout dans la forme des droits sociaux, tout cela existe encore et on peut encore utilement lire Les Misérables. Le récit lui-même présente la société et ses fondements traditionnels de manière extrêmement critique. La famille, par exemple. La famille est toujours monstrueuse. Madame Thénardier aime ses filles de manière bestiale, mais chasse ses fils dès qu'elle le peut. Elle présente son fils aîné Gavroche comme un accident. Elle l'appelle un effet du froid. Jeté sur le pavé, Gavroche servira provisoirement de père et de mère à deux gamins errants, affamés, qu'il couche au chaud dans le ventre de l'éléphant de la Bastille, étrange figure maternelle, et qu'il nourrit comme il peut en se privant lui-même. Il ne sait pas que ses deux enfants sont ses frères. Quant à Thénardier, leur père, il n'hésite pas à vendre ses filles ou à en blesser une sauvagement pour attendrir le bourgeois. Les familles riches ne sont pas plus généreuses. Le grand-père Gillenormand, qui est royaliste, obtient la garde de son petit-fils Marius à la condition que celui-ci ne voie jamais son père, le colonel Pontmercy, officier de Napoléon. Le père accepte dans l'intérêt de son fils et en meurt de chagrin. Toute famille est donc présentée comme une porte fermée, un nid d'égoïsme, d'intérêt et de peur. Les bons sentiments, quand il y en a, sont ailleurs, chez le petit Gavroche qui meurt en héros de la barricade, chez Éponine, sa sœur, par amour pour Marius, chez Jean Valjean, bien sûr, pour Fantine qui n'est pas la femme qu'il aime, pour Cosette qui n'est pas son enfant, ou chez l'évêque Myriel, chez le vieux père Mabeuf, bref, chez des personnages qui sont tous profondément des solitaires. Hugo confie à l'un de ses personnages le rôle de coryphée des misérables, celui qui dit la vérité sur l'état social, qu'il analyse de la façon la plus intelligente et la plus critique, et peut-être le plus mauvais de tous. C'est Thénardier le bandit qui rappelle aux riches qui consultent leur thermomètre pour savoir s'il fait froid. Nous, c'est nous qui sommes les thermomètres. Nous n'avons pas besoin d'aller voir sur le quai, au coin de la tour de l'horloge, combien il y a de degrés de froid. Nous sentons le sang se figer dans nos veines et la glace nous arriver au cœur et nous disons « Il n'y a pas de Dieu ». Et vous venez dans nos cavernes, oui, dans nos cavernes, nous appeler bandits. La haine de Thénardier, qui dit comment la société ravale ses pauvres au rang d'animaux, va déboucher quelques années plus tard sur la guerre civile, sur l'explosion de la Commune de Paris. Cela ne met pas en cause l'idéal républicain, mais cela le fait très profondément changer de nature. Un sociologue français contemporain, dans un ouvrage remarquable, Robert Castel, dans Les Métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat, qui a été publié en 1995, a rapproché de manière convaincante la société française de la fin du XXe siècle de celle de la deuxième moitié du XIXe siècle, telle que la dépeint Hugo dans son roman. Le paupérisme qui sévit dans les marges sociales comme une véritable maladie infantile de la modernité détermine de manière dangereuse toute la question sociale au XIXe siècle. Pour nous, la question prend une forme nouvelle, qui est celle de la remise en cause brutale du salariat et du travail qui structure l'ensemble de nos sociétés. Mais ce sont deux étapes d'une histoire commune, qui est celle du capitalisme moderne, de ses crises et de ses sociétés dissociées. Et nous y sommes encore, tenant ce livre entre nos mains. Deuxième question, les mystères du sens ou les misérables comme une Bible à déchiffrer. Je reviendrai sur l'étrangeté de ce roman protéiforme que l'auteur appelle successivement livre, drame et poème. Déroutant pour le lecteur, qui se voit proposer des codes de lecture différents, il présente en plus un aspect fragmentaire dû à la présence de nombreuses digressions historiques, philosophiques ou méditatives qui obligent à cette lecture pensive dont parlait à l'instant Manaco. Ces digressions sont étroitement imbriquées dans la fiction. Or, il arrive que les digressions et la fiction ne disent pas la même chose. J'en prendrai un exemple. Toute la fin de la deuxième partie du roman, Cosette, raconte comment Jean Valjean et Cosette réussissent à échapper à la chasse de Javert en se cachant dans le couvent du Petit Picpus. Ils sont là en sécurité pendant plusieurs années et Cosette reçoit des religieuses l'instruction et l'éducation que personne d'autre ne lui avait donnée. Dans la fiction, le rôle du couvent est donc entièrement positif grâce à son double rôle d'asile et d'école. Il offre protection et éducation. Donc on peut conclure, si on ne lit que l'histoire, en faisant comme les enfants dans l'édition Nelson, et en coupant toutes les digressions, on en conclut que le couvent, c'est très bien. Sans compter, c'est intéressant qu'on y rencontre des femmes comme la prieure, qui sont libres d'exercer leur intelligence et leur pouvoir, et leur discours, plus peut-être que dans la société civile, ces magnates mulieres dont il est question dans un autre passage de la digression. Or, les livres 6 et surtout 7, celui-ci intitulé « Parenthèse » de cette deuxième partie, offrent une description et une réflexion si développées sur le couvent et sur le monachisme en général que l'éditeur Albert Lacroix tenta d'obtenir de Hugo leur suppression, mais en vain. Hugo tenait beaucoup à, je cite, « cette étude de couvent au microscope faite pour la première fois », disait-il. Alors, que dit-il ? Il dit que l'ordre bénédictin et les couvents en général sont très malades, que le jardin est à l'abandon, que les religieuses sont de plus en plus vieilles, que la clôture monacale est une prison, que la vie de ces femmes est tragique et silencieuse, le corps torturé jusqu'à la fièvre et jusqu'à la folie. La cruauté de la règle monastique évoque les pratiques les plus effrayantes de l'Espagne fanatique et de l'Inquisition, et inspire à qui aime la nature et la vie un véritable dégoût. C'est lui qui prononce ce mot, dégoût. C'est donc un vrai réquisitoire. Mais, digression toujours, Hugo nous explique aussi, le couvent, c'est une assemblée librement consentie d'individus qui ont fait une sorte de choix démocratique. Chaque monastère est une petite république. C'est historiquement aussi la seule solution existante à la question féminine au début du XIXe siècle. Je vous rappelle que Cosette est née en 1815 et que Napoléon, non pas du tout pour des raisons religieuses, mais pour des raisons d'utilité sanitaire et sociale, encourage la réinstallation de couvents de femmes qui sont les seules à pouvoir faire des écoles à une date pareille, donc au début du siècle. Donc, la seule solution existante à la question féminine, dispensant soins et éducation, et surtout mettant à l'abri des pires dangers, c'est-à-dire de la prostitution, de pauvres femmes qui sont démunies de tout. Et, dernier argument positif, pour Hugo, le couvent, c'est enfin le choix de la grandeur, de l'idéal, de la prière, ce que Hugo, qui est anticatholique et anticlérical, en tout cas à cette date-là, mais profondément religieux, ne peut que saluer. Et le choix aussi d'une sorte d'exil. Exil que le Hugo de Guernesey est bien placé pour comprendre. On voit donc, au terme de cette discussion, de cette dialectique farouche, l'auteur s'agenouiller auprès des religieuses pour prier avec elles. La fiction tient donc un discours sur le couvent. La description et la digression tiennent des discours différents, violemment opposés entre eux. Le dégoût et le respect sont inconciliables. On ne trouvera pas de réponse unique aux questions posées. Le roman est tout entier ainsi fait de grands blocs fissurés dont le sens reste ouvert et qui nous oblige à un effort de déchiffrement. C'est pourquoi l'on peut dire que Les Misérables ont été conçus comme une Bible des temps modernes, un texte à deux axes, une chaîne narrative et une autre chaîne, disons verticale, que produit la mise en rapport des différents éléments du roman qui se figurent ou se contrarient les uns les autres, qui se figurent au sens des figuratifs de Pascal et qui forment un axe de l'immanence. L'épisode du roman, par exemple, est repris par d'autres, par celui de la bataille de Waterloo, qui est lui-même repris par celui de l'égout, produit une grande richesse poétique et métaphorique, mais aussi le fait que le sens du roman est à chercher dans la confrontation du sens immédiat et du sens caché, hein, du sens qui est produit par mettre ensemble ces épisodes différents. Pascal dit « Le Vieux Testament est un chiffre, c'est donc qu'il faut le déchiffrer, et tout le monde ne peut pas le faire. » Hugo reprend la même idée « Quid obscurum, quid divinum ». Et le livre invente son propre Dieu au sein même de cette obscurité, puis il se termine, vous vous en rappelez, en décrétant son propre effacement dans la dernière page, comme s'efface une vieille inscription sur une pierre tombale, « Comme le jour se fait ». Lorsque la nuit s'en va. Cela peut paraître paradoxal, mais cet effacement aussi fait partie d'un travail très complexe sur le sens et le signe, sur la nature même de la littérature qui a occupé beaucoup d'écrivains du 19e ou 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. Enfin, troisième question, et pardonnez-moi d'être aussi brève sur chacun de ces points, troisième approche, c'est celle d'un fil qui court tout au long du roman, qui est celui de la présence de l'inconscient des personnages. Analysé comme tel, analysé, peut-être pas le bon mot, présenté comme tel, il signale sans le dire l'intervention de l'auteur. En même temps, il lui évite toute analyse psychologique, hein, pourtant très caractéristique du roman français romantique et réaliste, mais qui n'intéresse pas Victor Hugo. C'est ce qui a fait dire que ces personnages étaient des types généraux, peu individualisés. Ce ne sont pas pour autant des figures abstraites. Ces personnages sont le point où l'auteur-narrateur, le sujet qui écrit, s'universalise et vient rencontrer le moi du lecteur. On en trouverait de multiples exemples dans Les Misérables. Par exemple, un mot très rare qui est le mot « épreinte » qui désigne les contractions de l'accouchement que Jean Valjean éprouve en regardant Cosette enfant dormir, en la regardant comme une jeune mère. Hein. Aucune considération psychologique ne vient nous expliquer que Jean Valjean se prendrait pour la mère de Cosette. Il serait évidemment une absurdité, mais qu'on pourrait justifier. Simplement, Hugo utilise ce mot « épreinte ». Et c'est tout ce qu'il nous dit. Bon. Plus tard, même chose, ou presque, pour la dimension incestueuse de son amour pour l'enfant. L'amour proprement dit était dans sa tendresse énorme pour Cosette, comme le filon d'or est dans la montagne, ténébreux et vierge. C'est tout, on n'en saura pas plus. Bon, j'ai choisi trois autres exemples que je reprends d'un travail récemment fait sur le détail dans un précédent colloque et qui sont plus amusants. Alors le premier, c'est Baptistine, la sœur de l'évêque, qui est une vieille fille parfaitement chaste et qui ne connaît rien à la vie. Baptistine écrit à son amie d'enfance, la vicomtesse de Boischevron, que la servante Magloire, Madame Magloire, a trouvé en arrachant les vieux papiers peints des murs de sa chambre, donc de la chambre de Baptistine, elle a fini par tomber sur des peintures, des sortes de fresques, qui ne sont pas mal, dit Baptistine, et qui représentent des jardins dont le nom lui échappe. Des jardins, ça lui rappelle l'histoire de Calypso qui reçoit le fils d'Ulysse dans son jardin. Enfin, dit-elle, je ne sais pas, des jardins où les dames romaines se rendaient une seule nuit. À l'évidence, il s'agit de fêtes orgiaques. Mais à l'évidence aussi, Baptistine ne sait pas ce que c'est, ne sait pas ce qu'elle dit, ou plus précisément, ce qu'elle n'arrive pas à dire. Hugo, lecteur d'Ovide, le sait très bien. Il donne malicieusement à cette pauvre femme un décor de chambre à coucher qui invite évidemment à de toute autre scène. Mais surtout, en faisant faire un effort de mémoire et d'explication à Baptistine, il note une vérité fulgurante, qui est celle de la force d'un souvenir d'une chose qu'on ne comprend pas et qu'on se rappelle justement parce qu'on n'a pas compris. Hein, si Baptistine se rappelle ses jardins, c'est qu'elle en a entendu parler sans comprendre et que sa mémoire, et peut-être même son inconscient, se sont arrêtés sur ce mystère interdit à elle par l'existence, ce mystère des choses du sexe. La mémoire vacillante dit ici l'étendue de la frustration. Deuxième exemple différent, c'est celui du forçat Brevet, qui a été un des compagnons de bagne, parmi beaucoup d'autres, de Jean Valjean. Et Jean Valjean, pendant la nuit de l'insomnie chez l'évêque, la nuit au terme de laquelle il partira avec les chandeliers, a une insomnie. Et pendant cette insomnie, il lui revient, et ça n'a apparemment aucun sens, une image visuelle, un détail. C'est, non pas même pas le forçat Brevet lui-même, mais un détail de son accoutrement, la bretelle en tricot à damier qui retenait son pantalon. C'est un objet totalement aléatoire, sauf que quand on l'a vu et revu dans le monde uniforme et incolore du bagne, on ne l'oublie pas. Elle présente un caractère grotesque et ornée d'un motif géométrique, elle est un support visuel idéal pour l'obsession. Les peintres du XXe siècle, Mondrian par exemple, un des premiers, ont beaucoup travaillé sur l'impact sur l'œil des motifs abstraits, géométriques et en particulier du quadrillage. Cette bretelle absurde, c'est le souvenir d'un compagnon insignifiant et au-delà, c'est le souvenir, la hantise du bagne, monde effroyable que Jean Valjean va chercher à fuir pendant tout le roman. Ce que le choix de cette image met donc en évidence, c'est le fonctionnement de l'inconscient et de la mémoire. Dans le vide de l'esprit, au sein de l'univers claustral, un détail qui n'a d'importance que visuel s'est imprimé démesurément et suffit donc plus tard, et là on va vers un autre romancier, suffit donc plus tard à ressusciter un univers tout entier. Dernier exemple, le très étonnant récit du rêve de Jean Valjean dans Après Tempête sous un crâne, qui est sans doute le premier cas connu dans la littérature de ce type d'exercice dans sa forme sèche, dans sa forme analytique, si vous voulez. Jean Valjean hésite à se dénoncer pour disculper le pauvre Champmathieu qui est accusé à sa place. S'il se décide à le faire, sa vie va s'écrouler, il va tout perdre et retourner au bagne. Il finit par s'endormir, épuisé d'angoisse. Et il fait alors un cauchemar. Le chapitre s'intitule « Forme que prend la souffrance pendant le sommeil ». Hugo présente le récit de rêve comme la copie d'une note écrite par Jean Valjean. Il est question d'un frère qui disparaît en Suisse, ensuite, motif fréquent et douloureux chez le romancier dont le frère et rival Eugène étaient morts dans la folie. Il décrit ensuite une campagne sans arbres et une ville morte où passe d'abord un cavalier nu, je cite, couleur de cendre, monté sur un cheval couleur de terre. Puis une plaine où se rassemble une foule d'hommes silencieux au visage couleur de terre. Alors le premier que j'avais vu et questionné en entrant dans la ville me dit « Où allez-vous? Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes mort depuis longtemps ?» J'ouvris la bouche pour répondre et je m'aperçus qu'il n'y avait personne autour de moi. Rêve de mort, car Jean Valjean doit tuer symboliquement soit Champmathieu, soit lui-même, selon qu'il va ou non se dénoncer. Rêve d'identité où l'on ne sait plus qui l'on est, si l'on est mort ou si l'on est vivant. Rêve de solitude, d'angoisse, d'impossibilité de parler aux autres, avec les autres. Alors, est-ce que c'est un récit de rêve inventé par Hugo, modifié par Hugo, un souvenir personnel? Les deux, on ne le sait pas, on ne le saura probablement jamais, mais en le lisant, on est obligé de faire à ce rêve une confiance, parce que c'est un rêve que chacun de nous pourrait faire, parce que c'est la vérité même du rêve. Nous sommes donc, nous lecteurs, entraînés dans un inconscient non pas collectif mais universel, dans lequel chaque lecteur devient à ce moment-là Victor Hugo, effet de lecture qui actualise incroyablement le roman. Vous connaissez sans doute le célèbre roman d'Émile Ajar, La vie devant soi, publié en 1975. Son héros, Momo, est un nouveau Gavroche de Belleville, l'un des quartiers les plus populaires de Paris. Momo connaît bien la vie, la rue, la drogue, la prostitution, la misère. Il ne va pas à l'école, mais il sait que l'amour existe et espère, sans illusion, que plus tard, le monde deviendra meilleur. Momo, qui ne connaît de la littérature que ce roman irrécupérable, et rêve qu'un jour, lui aussi, il écrira Les Misérables. Je vous remercie.